L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
La parole de Dieu, nos vies peuvent être changées à tout jamais. On est ruiné pour le diable quand on va dans la parole de Dieu. Savez-vous ça? Le diable est très frustré avec nous quand on va recevoir le conseil de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? On va simplement prier pour donner ce temps au Seigneur. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur, parce que dans ta parole, tu dis qu'on va connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Et ce matin, je prie que chaque personne ici soit affranchie, qu'il puisse vraiment, Seigneur, expérimenter la liberté en Jésus-Christ. J'ai prié au nom qui est au-dessus de tous les noms, celui de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on commence une série qui s'intitule « Les racines ». Et le Seigneur m'a donné ça à cœur la semaine passée. Et j'avais vraiment à cœur qu'on commence à parler des racines. Je trouve que c'est vraiment important parce que beaucoup de personnes, des croyants, font partie des églises et se promènent d'une église à l'autre. Et puis, ils n'ont pas jamais vraiment été établis avec des racines profondes. Et moi, je crois qu'on peut grandir dans le Seigneur. On peut écouter des prédicateurs à la télévision. On peut écouter des prédicateurs sur l'Internet, recevoir des bonnes choses. Mais si on n'est pas enraciné vraiment dans la parole de Dieu et par la révélation que Dieu a pour nous, on ne sera pas des chrétiens solides. Et moi, je crois que le Seigneur veut qu'on soit des chrétiens matures, solides, enracinés dans la parole de Dieu. Ça, c'est mon cœur ici, que chaque personne soit enracinée. Et que, vous savez, quand vous allez à l'extérieur, par exemple, vous êtes en vacances et ça donne que vous allez dans une autre église, si quelqu'un enseigne contre la parole de Dieu, vous allez savoir pour vous autres-mêmes que c'est pas la vérité. Vous n'aurez pas besoin de Joël, vous n'aurez pas besoin d'un frère ou d'une sœur pour vous dire hey, « c'est pas correct ». Vous le saurez parce que vous êtes déjà enraciné dans la parole de Dieu. C'est tellement important qu'on soit vraiment enraciné. Je ne sais pas si on a un problème avec les batteries ou si on a des batteries vieilles. En tout cas, on va continuer. Et qu'est-ce que j'avais vraiment à cœur, c'est justement qu'on puisse prendre ce temps-là pour s'enraciner dans la parole de Dieu. Alors, le premier point, c'est avant de parler de racines, il faut parler de semences, n'est-ce pas? Avant de voir un arbre, avant de voir les racines et tout ça, il y a toujours une semence à quelque part pour voir finalement un arbre. Et c'est quoi la semence qu'on veut au cœur ici? Quelle est la semence que Dieu veut développer en dedans de vous? Moi, je crois que c'est une semence de la parole, et pas de n'importe quelle parole, pas une parole de doute, mais une parole de foi. Alors, encore une fois, on va établir la base, c'est dans Romains chapitre 10 et le verset 8. Romains chapitre 10 et le verset 8. Il est écrit, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Donc, je vais le relire encore une fois. Romains chapitre 10 et le verset 8, il est écrit, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, or c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Donc, nous prêchons un message de la foi, mais la foi en quoi? La foi dans la parole de Dieu, la foi en Jésus-Christ. Et il y en a plusieurs qui vont dire, « Oui, Joël, on croit tous dans le message de la foi en Jésus, mais c'est une chose à réaliser ici, ça dit, la parole est près de toi. » Il y a beaucoup de croyants qui savent que la parole est près, et tout près, est à côté d'eux. Ils peuvent aller prendre la parole, ils peuvent prendre la Bible, ils peuvent prendre les promesses de Dieu, mais si elle est simplement près de toi, proche de toi, ça ne changera rien dans ta vie. Mais ici, ça dit, la parole est près de toi, et en plus, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alors moi, je crois ce matin, ce qu'on va faire, on va s'enraciner justement dans cette parole qui change des vies. Amen. Cette parole de foi dans nos cœurs, dans la foi qui est placée l'endroit où c'est vraiment sûr et certain. Quand on place notre foi en Jésus-Christ, on ne sera jamais, jamais déçu. Amen. Donc ça, c'est pas la racine, mais c'est la semence qui va faire naître cette racine, ou d'où c'est que la racine va grandir. Ça va partir avec cette semence-là. Et ce matin, que j'avais à cœur qu'on puisse vraiment examiner avant d'aller plus loin, avant de parler des racines nécessairement. Vous savez, on a peut-être des mauvaises racines dans nos vies qu'on doit déraciner ou qu'on doit demander au Seigneur de venir déraciner. Mais non seulement est-ce qu'on veut se pencher vers les racines qui peuvent être dans nos vies, mais il faut premièrement comprendre comment ça fonctionne, ces racines-là, et les terrains. Alors, on va examiner ce matin la parabole du semeur qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 13. On va passer un petit peu de temps dans Matthieu chapitre 13 ce matin parce qu'on veut établir une bonne fondation. Par la suite, vous savez, on va continuer pendant quelques semaines en parlant des racines, mais il faut vraiment tout d'abord établir cette fondation-là. Donc, dans Matthieu chapitre 13, commençons au verset 4, ici nous lisons les paroles de Jésus, et Jésus disait ceci. « Un semeur sortit pour semer. » Donc, c'est Matthieu chapitre 13, verset 4 à 8. « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux, virent et la mangèrent. » Verset 5. « Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. » Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée faute de racines. Connaissez-vous des gens peut-être qui sont brûlés dans leur vie chrétienne, ont été brûlés par les églises, ils ont desséché spirituellement? Ça dit que c'était faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100 et un autre 60, un autre 30. Alors ici, on voit, il y a toutes sortes de terrains, c'est la parabole que Jésus a donnée. Maintenant, on va dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, au juste? Jésus est merveilleux, il nous donne l'interprétation au verset 19. Donc, au verset 19, il reprend puis commence à nous expliquer c'est quoi que ça veut dire exactement cette parabole-là. Donc ici, on lit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Donc, premièrement, la personne ici de qui on parle, c'est une personne qui a entendu la parole du royaume, mais qui ne l'a pas compris. La personne peut-être est allée à l'église et peut-être même on aurait entendu un discours en latin, par exemple. Vous savez, il y a certaines églises où les gens vont aller à l'église, mais ils vont même pas comprendre le langage. Des fois, c'est le langage spirituel, mais des fois, c'est même le langage intellectuel. Ils comprendront pas. Ça nous dit ici, cette personne-là, que le malin va venir voler cette semence. Même si c'était des paroles qui sortaient de la bouche de Dieu, la personne peut rien recevoir. C'est le long du chemin. La personne n'a pas compris le message. Ça, c'est le long du chemin. La deuxième place, les endroits pierreux, au verset 20. Ça dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc déjà là, on serait content, on dirait, hey, la personne a bien saisi le message, elle a bien compris et puis est contente en plus, elle se réjouit du message. Verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc cette personne-là, voici les endroits pierreux, c'est celui qui reçoit la parole avec joie, mais la personne ne continue pas dans les voies de Dieu. Ça le dit, il n'y a pas de racine, cette personne-là n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Connaissez-vous des gens qui ont commencé à marcher avec le Seigneur, qui ont entendu le message, qui ont été excités de connaître Jésus-Christ, et après un bout de temps, ils arrêtent de marcher avec le Seigneur. Ils se découragent. Ils manquent de persistance. Et moi, je peux vous dire que je crois que trois quarts des chrétiens qui ne rentrent pas dans leur destinée, c'est à cause de ça, justement. Ils n'ont pas eu la persistance. Vous savez, des fois, on peut commencer une course, et on peut être tout enthousiaste et dire, moi là, je veux me rendre jusqu'au bout, je veux me rendre dans ma destinée. Mais là, après un bout de temps, quand on ne prend pas le temps de s'enraciner dans la parole de Dieu, quand on n'a pas les racines en dedans de nous-mêmes, les racines dans la parole, qu'est-ce qui va se passer? On s'est mis à courir, on a couru, mais après un bout de temps, on se décourage et on ne rentre pas dans notre destinée. On manque de persistance. Moi, je peux vous dire que j'ai eu l'opportunité de manquer de cette persistance-là. J'ai eu l'opportunité de démissionner bien des fois. Je pense que si vous êtes un enfant de Dieu, ça fait plus qu'une journée, vous avez eu cette opportunité-là de vous décourager, n'est-ce pas? Moi, je me rappelais ce matin, pendant que je priais, j'ai eu un bon temps avec le Seigneur et le Seigneur me parlait de façon très claire. Et je me suis rappelé, il y a 10 ans, quand j'ai commencé le ministère d'évangéliste, quand je me promenais avec mon épouse, une fois, on est allé prêcher aux États-Unis. Et puis, c'était organisé des mois à l'avance. On s'en allait dans un petit village, je me souviens plus c'était dans quel état, peut-être dans l'état de New York ou le Maine, dans le Maine, je sais pas trop. Mais on s'en allait à quelque part. Et puis, rendu là-bas, à l'église, il y avait 4 personnes qui s'étaient pointées pour la réunion. 4 personnes. Nous, on avait fait des heures de route, et mon épouse va s'en rappeler, mais il y avait 4 personnes à l'église. Et le pasteur est venu me voir, puis il a dit, hey, « Je m'excuse, mais ça s'adonne que la fin de semaine, quand tu venais, il y a cette foire-là en ville, puis tout le monde sont rendus là, ils veulent tout être dans les manèges, puis ils ne sont pas à l'église. » Et savez-vous, pour un jeune évangéliste qui s'est préparé, puis il arrive à une place dans l'État de New York et il y a 4 personnes pour l'écouter prêcher, je peux vous dire, ça nous donne pas le goût de continuer. Mais le Seigneur m'avait dit à ce moment-là, « Joël, est-ce que tu es là pour faire du ministère auprès de toi-même ou tu es là pour faire du ministère auprès des gens? » Et le Seigneur me ramenait ce matin comment Jésus avait quitté le ciel, il avait quitté la gloire du ciel et était descendu sur la terre pour nous, mais il l'aurait fait pour juste une personne. Savez-vous ça? Jésus l'aurait fait pour seulement une personne. Et moi, je suis qui pour dire, Seigneur, je me suis déplacé jusque dans l'État de New York et il y a 4 personnes. J'aurais pu me décourager, manquer de persistance et dire, j'oublie ça le ministère. Mais non, parce que Dieu nous dit, quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous en donner des plus grandes. Et moi, je peux vous dire, j'ai été témoin de la bonté de Dieu. Dieu nous a donné des plus grandes choses. Par la suite, bien, on allait dans des places où il y avait plus de gens, des fois 5-6 personnes. Mais on est allé à des endroits où il y avait plus de gens. À par la suite, vous savez, le Seigneur a ouvert des portes pour nous, pour qu'on fasse la télévision. Et c'était tout surnaturel. On pouvait pas ouvrir des portes comme ça. C'était la main de Dieu. Je l'ai vécu dans le passé. J'ai vu la main de Dieu surnaturellement bénir nos vies dans le monde anglophone. Et maintenant, on recommence à case 1. Avec Dieu, dans la francophonie. Mais savez-vous, dans la francophonie, on sait que Dieu va le faire encore. Je suis convaincu dans mon cœur, on va persister, on va continuer, on va persévérer dans les voies de Dieu parce que je l'ai vu, j'ai vu que Dieu était fidèle. Dieu l'a fait dans le passé, il va le répéter encore une fois. Et le diable nous aura pas. Le diable nous découragera pas. Nous dirons, on continue et en plus, on va le faire souriant et on va se réjouir dans ce que Dieu est en train de faire. Et savez-vous pourquoi une autre chose? C'est parce qu'on n'a pas juste une vision humaine, on a une vision prophétique. On voit qu'est-ce qui s'en vient prophétiquement. Puis quand on voit, quand on peut mettre nos lunettes spirituelles, on peut se réjouir et dire, waouh, Dieu va faire des grandes choses parmi nous. L'ennemi voudrait qu'on regarde juste au présent, au terre à terre. L'ennemi voudrait que vous puissiez regarder juste vos finances personnelles ou votre situation peut-être de couple et juste que ça soit dans le temporaire, juste dans votre présent. Mais Dieu vous dit, levez vos yeux, regardez plus haut, j'ai des grandes choses pour vous. Mais 3/4 des chrétiens, ils passent à côté de leur destinée parce qu'ils se découragent. Ils permettent à l'ennemi de gouverner leur vie. Ils écoutent les mensonges de l'ennemi. Finalement, ils n'accomplissent pas le plan de Dieu pour leur vie. Mais moi, je suis déterminé. S'il y avait juste un chat ici, là, on ferait la réunion quand même. Amen. Ou même un chien. Non, mais c'est merveilleux. Moi, ça me réjouit de savoir qu'on peut persister. Mais pourquoi? Comment est-ce qu'on peut faire? À cause, on a des racines. Il y a des racines établies dans nos cœurs. Là, la troisième place, les épines, au verset 22, ça dit, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Si vous êtes inquiet, les soucis du siècle, vous êtes toujours perturbé, vous êtes inquiet, cette chose-là, l'inquiétude peut vous empêcher d'entrer dans votre destinée, peut empêcher cette racine de vraiment prendre naissance dans vos cœurs, parce que vous êtes tout le temps confus, vous êtes mélangé, vous êtes en train de vous inquiéter de ci puis de ça. Ou peut-être la séduction des richesses. Vous avez commencé avec Dieu, mais là, les richesses, comme l'attrait des richesses vous attire, et là, vous décidez de marcher pour les richesses au lieu de marcher pour Dieu. Au lieu que Dieu soit votre première priorité dans votre vie, vous recherchez l'argent en premier. Et je peux vous dire, j'ai vu des gens choisir l'argent au lieu de choisir Jésus-Christ. Et moi, j'ai eu l'opportunité. Le Seigneur, quand il nous a dit que c'était le temps pour nous de quitter le ministère en Alberta, bien, je peux vous dire, c'était le temps, côté financier, qui était le plus tentant. J'avais une augmentation de salaire, on me donnait mon émission le samedi soir, c'était quelque chose de merveilleux. Et aussi, l'église là-bas, autrefois, pendant les 4 ans, j'étais pasteur associé, mais avant de partir, le pasteur senior m'avait demandé si je voulais prendre l'église en charge, une église de 400. Savez-vous, plus de responsabilités, plus de choses merveilleuses qui auraient pu arriver, mais le Seigneur nous avait dit que c'était le temps de partir. Si on reste une journée de plus que le Seigneur nous dit, on est en désobéissance et on est des serviteurs de l'argent, serviteurs de l'opportunité au lieu d'être des serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'on va arriver à cette place où on sera pas guidé par les finances, on sera pas achetable, mais on va vraiment servir Dieu, coûte que coûte, peu importe, on va faire ce que Dieu nous demande de faire. Moi, je crois là qu'on est ici parce que Dieu veut faire de quoi parmi la francophonie. Moi, je crois que Dieu a un plan pour les Québécois. Je pense pas que c'est pas possible que ça continue toujours comme ça, que tout le Québec s'en aille directement en enfer. Moi, je crois pas, non. Je crois pas ça. Moi, je crois que Dieu veut faire quelque chose. Là, il reste à voir est-ce que le Québec va y croire. Est-ce que le Québec va croire que Dieu veut faire de quoi ici? Moi, je prie que oui. Amen. Amen. Mais on est ici, nous. On y croit. Donc, la séduction des richesses, les soucis, tout ça, ça peut nous faire passer à côté et ne pas vraiment être enraciné dans les bonnes choses. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont enracinés avec l'amour de l'argent. Vous savez, l'amour de l'argent, c'est le début de tous les maux. C'est terrible. C'est pas l'argent en tant que tel. Des fois, les gens pensent le plus pauvre qu'on est, le mieux que c'est. C'est pas ça, mais c'est l'amour de l'argent. Savez-vous, vous faites casser comme un clou, puis aimer l'argent est tellement là attaché à votre dizaine là, que vous ne donnez jamais à personne. Mais vous faites peut-être avoir 10 000 piastres et vous le donnez comme ça. Ça, vous n'avez pas l'amour de l'argent. Vous avez l'amour de Dieu, premièrement. C'est des choses comme ça qu'on doit comprendre concernant les épines. Mais la bonne terre, au verset 23, c'est ça qu'on veut avoir. Amen. La bonne terre. Verset 23, ça dit, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. » Donc, ce qu'on veut pour notre vie, c'est d'être établi là où on est dans un bon terrain, n'est-ce pas? Si on comprend quelque chose de toute cette parabole que le Seigneur nous donne, c'est on veut être planté à la bonne place. On veut être planté dans l'endroit ou à l'endroit où, quand on entend la parole de Dieu prêcher, premièrement, on comprend qu'est-ce qu'il dit. Hein, c'est pas du chinois. Quand quelqu'un prêche, c'est pas comme « je comprends pas du tout ». Vous savez, je pourrais être tellement théologique que vous comprenez rien. Parlons de sotériologie et l'eschatologie d'une façon ecclésiocentrique. Avez-vous compris de quoi? C'est des mots théologiques que je viens de vous donner, mais ça changera quoi dans votre vie? Mais qu'est-ce qui est important ici quand on voit, ça nous dit, faut pour avoir cette bonne terre dans notre vie, faut comprendre le message. Et si on comprend le message, par la suite, on va porter du fruit. Qui aimerait ça, porter du fruit? Moi, je veux porter du fruit. Donc, moi, je m'expose à des enseignements que je vais comprendre, premièrement. C'est premier critère, c'est simple. Mais vous savez, des fois, il y a des gens, là, moi, j'ai entendu ça, des témoignages qui vont aller entendre un prédicateur, puis c'est « Wow! Hey! C'est profond, ça! » Puis là, après, on dit « C'est quoi que tu as appris? » « Je le sais pas, mais c'était bien profond. » C'est tellement profond qu'on n'a rien compris, donc ça ne nous sert à rien. Ça ne donne à rien, ça, quand on ne comprend pas. Il faut comprendre, premièrement. C'est simple, mais c'est ça. Donc, on veut avoir notre vie placée dans la bonne terre. Et où recevez-vous la bonne terre? C'est l'endroit où vous allez comprendre et c'est l'endroit où vous allez porter du fruit. Donc, prochain point, l'amour pour cette bonne terre. Si Dieu vous a planté ici, OK? Dans cette bonne terre que je crois, si Dieu vous a établi ici, vous a planté ici, là, Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est développer cet amour pour la terre. Il veut développer cet amour dans vos cœurs. Et moi, je crois, là, ça peut venir d'une façon surnaturelle, que Dieu vous donne l'amour pour une place. Et si vous dites, Joël, t'es-tu en train de prêcher pour ta paroisse ce matin? Oui! Je prêche pour ma paroisse. C'est-tu correct? Hey, les pasteurs ont le droit de faire ça? Hein, on prêche pour notre paroisse. Non, mais sérieusement, là, moi, je crois là, que Dieu appelle un peuple à une certaine place pour un but spécifique. Moi, je crois ça. Je crois qu'il y a des églises à Granby qui ont un mandat particulier. Il y en a peut-être, c'est pour aider les démunis dans les rues. Et peut-être, il y a des gens qui sont vraiment, vraiment appelés à ça, puis c'est leur passion dans la vie. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Peu importe, je parlerai pas de toutes les visions dans le monde qu'il y a. Il y a toujours des visions à quelque part, et notre ADN devrait s'attacher à l'ADN de l'Église, à la vision de l'Église. Ici, c'est de voir des vies transformées par le message de la foi, par les médias. Donc, si vous avez à cœur de voir les gens transformés, libérés, évangélisés, tout ça, et par le message qu'on prêche, certainement, il faut que vous croyez qu'est-ce qu'on prêche. Si vous ne croyez pas, ça ne donne rien. Hein? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce que vous entendez, c'est vous fermez vos oreilles, ça ne donnera pas grand-chose dans vos vies. Mais si vous croyez au message, bien là, c'est merveilleux parce que vous êtes à la bonne place. Mais Dieu veut développer cet amour pour cette terre, et par la suite, il vous appelle à marcher dans la fidélité. Dans Proverbe 20, chapitre 6, Proverbe chapitre 20, verset 6, ça dit « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? » Qui le trouvera? Dans la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes de principes, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui manquent de fidélité. Et souvent, c'est dans les couples qu'on voit ça. Les gens se marient ensemble et il n'y a pas cette fidélité. Il n'y a pas la persistance ou l'honneur où on ne continue pas dans les vœux dans lesquels on s'est engagé. Et je crois qu'il y a un manque de fidélité qui se reflète à plein de niveaux, que ce soit dans les couples, dans les familles. Il y a des pères qui s'en vont, qui laissent leurs enfants, ou des mères qui font la même chose. Il y a un manque de fidélité et ça se reproduit dans l'Église. Mais mon cœur et ma prière ici, c'est qu'on va avoir des gens fidèles. Et moi, je crois qu'on a déjà un bon noyau de gens fidèles. Mais c'est de quoi qui peut venir seulement quand on a vraiment la révélation que Dieu nous appelle à une place. Puis quand on sait que Dieu nous a appelés à cette place-là, Dieu travaille et nous donne cet amour, puis on veut rien manquer. On fait comme on voit ici, on voit des mains autour de la terre qui sont là pour prendre soin de cette racine. Mais si on fait autrement, si au lieu de prendre soin de la terre, puis on tape la terre, puis on veut tout faire pour bien prendre soin de cette semence qui est en train de grandir, si on prend nos mains, puis on déterre constamment cette petite semence, et on prend la semence dans cette église, et on va dans une autre église, on la plante là pendant un temps, après on la déterre, puis on la met dans une autre semence, cette semence-là, elle se promène d'une place à l'autre et elle ne prend pas ses racines. Et je crois qu'un grand problème au Québec, puis là, moi, je m'adresse aux gens aussi qui écoutent par l'Internet aujourd'hui et partout, peu importe où vous vous trouvez, quand on prend cette racine-là et on la déterre à chaque fois, on l'arrache et puis là, elle ne prend pas toute l'ampleur, elle est retardée dans sa croissance. Moi, je crois qu'on se retarde. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, en tant que berger, moi, mon rôle, ma responsabilité, c'est de vous aider à marcher avec le Seigneur. Moi, je sais c'est quoi vous avez entendu. Je vous prêcherai pas sur l'Apocalypse chaque dimanche parce que je le sais qu'on a déjà parlé il y a 2-3 mois. Mais si vous vous promenez d'une église à l'autre constamment, bien là, un dimanche, vous recevez une parole, un autre dimanche, une autre parole. Finalement, votre menu, là, il est partout, là, vous n'avez pas un menu équilibré. Mais si vous marchez établi dans une église locale, Dieu permet à ses racines de prendre vraiment naissance et là, de grandir. Et là, vous allez être mature, vous allez grandir et avoir le stamina ou comment vous allez être capable de résister aux mauvais jours. Quand les vents vont venir dans votre vie, vous allez être bien établi. Parce que la parole est établie dans vos cœurs. Un dimanche, vous venez ici, je vous dis que Jésus vous aime, Jésus veut vous guérir, et le dimanche d'après, vous êtes dans une église qui dit, ben peut-être Dieu le permet pour t'enseigner de quoi. Votre semence est toujours comme, est dans le vent, elle se promène partout et pas enracinée. Moi, je crois là que Dieu nous donne des choses en parole, des conseils pour vraiment être bien enraciné. Dans Hébreux 10, 25, c'est pas la parole de Joël Smith, c'est la parole de Dieu. Hébreux 10, 25, en lisant dans la Bible du Semeur, ça nous parle de constance. Concernant l'amour de cette terre, ça dit « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Donc, ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Est-ce que je suis en train de prêcher un message de légalisme où on n'a pas le droit jamais de manquer une réunion? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je crois que la parole de Dieu, si c'est là, ce verset-là, c'est pour notre bien, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir comme routine de vie qu'on manque toujours nos réunions. Qu'on dise, ah ben, ce dimanche, je pense que je vais aller magasiner, je pense que je vais aller au marché aux puces à la place. Ça, c'est d'avoir des mauvaises priorités dans nos vies. C'est vraiment d'avoir des mauvaises priorités et votre racine, elle ne va pas porter du fruit. Les percées, les miracles que vous voulez voir dans vos vies, vous ne les verrez pas parce que vous mettez Dieu en deuxième place, en deuxième priorité. Il n'est pas numéro un. C'est sûr qu'il y a des temps, bon, quand notre soeur va accoucher, là, je m'attends pas qu'elle va accoucher ici dimanche matin. Je m'attends qu'elle va être à l'hôpital. Vous comprenez? Il y a des bonnes raisons. Il y a de la famille. Vous allez à l'extérieur. Vous allez en vacances. Il y a des raisons comme ça. Mais comme principe de vie, qu'est-ce que je suis en train de dire? Comme principe de vie, on devrait être fidèle à notre assemblée. Pourquoi? Est-ce que c'est pour Joël Spinks? Non. C'est pour honorer Dieu dans nos vies. Moi, quand j'étais petit, j'ai été inculqué comme ça. J'avais mon 25 cents en main et j'allais à l'église chaque dimanche de ma sainte vie. C'est vrai. Je manquais pas d'église. Mon 25 sous, c'était pour remettre dans l'offrande. Donc, je donnais chaque dimanche et j'étais toujours, toujours, toujours à l'église. Tous les dimanches de ma vie, vous pouvez checker mon agenda, j'étais à l'église. Si je l'ai manqué, c'est parce que j'étais malade. Puis, c'était très rare. J'ai été malade à l'âge de 4 ans et j'ai été malade quand j'étais allé en Haïti en revenant d'un voyage horrifique. C'était super béni pour les miracles, tout ça qu'on a vu. Mais côté santé, j'ai maigri 18 livres dans une semaine. Donc, j'avais une bonne raison. Si vous maigrissez 18 livres cette semaine, vous n'êtes pas là dimanche prochain, on va comprendre. Tout ça pour vous dire, je suis en train de vous donner des choses élémentaires, mais c'est très important. Puis, c'est pas simplement en vue de vous. Pour les gens aussi qui écoutent sur l'Internet aujourd'hui, peut-être vous écoutez seulement sur l'Internet et vous êtes peut-être même à Granby et peut-être vous venez même pas vous asseoir ici. Dieu vous appelle de sortir de votre maison et de venir à l'Église. Savez-vous, si tout le monde reste chez eux et écoute des prédications sur l'Internet, est-ce qu'on va vraiment avoir la lumière à Granby comme on voudrait l'avoir? Si tout le monde écoute la prédication chez eux, non, Dieu vous appelle à vous joindre à une église, à un corps, pour vous y entrer. Oh, le diable, il veut pas que je prêche ce matin. Mais c'est vrai. Savez-vous pourquoi une autre chose de positive en venant à l'église? C'est qu'il y a des frères et des sœurs papier sablé qui vont vous aider dans votre marche chrétienne. C'est vrai, il y a des frères et des sœurs qui vont peut-être vous déranger, mais le fait de se faire déranger vous permet d'être façonné à l'image de Jésus-Christ. Et là, vous allez apprendre à les aimer et vous allez prier pour cette personne-là. Dieu va donner un amour surnaturel dans votre cœur pour la personne et Dieu va vous changer, va vous transformer. Mais si on est offensé puis on reste à la maison, c'est pas bon. Est-ce que je pile sur des pieds ce matin? Ça se peut. Moi, là, savez-vous, ma job, c'est de prêcher ce que Dieu me donne de prêcher. Ça vous dérange? Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Mais c'est ça. Moi, je crois que c'est important qu'on soit constant, qu'on soit fidèle et qu'on ait la même passion que Jésus avait pour l'Église que nous l'avons. Vous savez, Jésus est mort sur la croix pour son Église. Il dit aux Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais Christ a donné sa vie pour l'Église. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie pour notre Église locale? Bien, moi, je le fais. Je donne toute ma vie. Est-ce que Dieu peut avoir 2 heures par semaine de votre vie? Au moins. Peut-être plus mercredi soir, même en prière. Je suis en train de vous prêcher des choses ici. Je sais, moi, si je vous prêchais juste des choses que vous aimeriez entendre, savez-vous, on ferait peut-être avoir plus de monde. Mais moi, je veux vous prêcher le conseil de Dieu. Parce que je pense, si vous établissez ça dans votre vie, là, la fidélité là-dedans, les autres choses vont suivre. Parce que dans la parole, c'est dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses-là vont être rajoutées. Mais il y a plein de monde qui cherche pour toutes les autres choses. Toute leur vie, ils courent à droite, à gauche pour les autres choses et ils oublient le numéro 1. Puis ils ont de la misère. Je comprends pas pourquoi Dieu m'aide pas dans ma vie. Ben moi, je comprends. Des fois, là, j'ai des gens dans mon bureau qui m'ont dit ça. Je comprends pas. Mais tu viens à l'église une fois aux 6 mois. Peut-être, si tu venais plus souvent, tu recevrais la parole de Dieu pour ta situation, puis ça irait mieux. Amen. Hey, je prêche des affaires pas fun. Hein? Vous savez, dans la parole, dans Psaume 69, verset 10, c'est David, ici, qui est un type prophétique de Jésus-Christ, qu'on relit dans Jean 2, 17. Il dit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle. OK, c'est un amour profond. Et dans la Bible, Sommer, ça dit, « L'amour que j'ai pour ta maison est en moi comme un feu qui me consume. » Le dimanche matin, quand vous vous réveillez, est-ce qu'il y a un feu dans votre cœur qui dit, « Faut que je m'en aille à l'église de la victoire. » Amen. Il y a un feu dévorant. Je peux pas manquer cette réunion-là parce qu'il y a la parole de Dieu qui va être prêchée, ma portion pour cette semaine. Ici, David dit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Si on a un manque de zèle, ça se peut, prier et demander que le Seigneur vous en donne. Il peut le faire. Moi, je crois qu'il peut le faire. Le zèle de ta maison me dévore comme un feu qui me consume. Amen. Donc, le premier point ce matin, c'est l'amour pour cette bonne terre. Si on a une semence de la parole dans nos cœurs, c'est merveilleux. Par la suite, il faut aimer la terre où on est planté. Si on maudit la terre, on est en train de se maudire parce qu'on est planté dans cette terre-là. On veut bénir On veut bénir notre terre, on veut bénir les frères et les sœurs dans notre Église. Heureusement, par la suite, OK, j'ai déjà lu ces versets-là, les promesses pour ces puissantes racines. Une fois là, que vous avez accepté de vous établir et de vous laisser enraciner, il y a des promesses pour vous. Parce que vous savez, le Dieu qu'on sert, c'est un bon Dieu. Et à chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, il nous donne une promesse. Il nous donne un cadeau. C'est le bon Dieu qu'on sert. Dans Psaume verset, chapitre 1, commençant au premier verset, il est écrit « Heureux l'homme ». Premièrement, j'arrête là. Le mot « heureux » veut dire « béni ». Excusez. « Béni ». « Heureux l'homme ».« Blessed is the man » en anglais. « Heureux l'homme ». Ça veut dire vous allez être béni. « Béni est l'homme » ou « l'homme qui fait ces choses sera béni ». Qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Regardez ça, la source de sa joie. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Ça veut dire on va lire notre parole, on va passer du temps dans la parole de Dieu, le jour et même la nuit. On peut se réveiller pour lire la parole. Verset 3. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Qui aimerait ça toujours réussir? Tout ce que votre main touche réussit. Dieu nous dit comment? Au verset 3, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre-là qui est planté près d'un courant d'eau, là, il est planté à la bonne place. Il peut se nourrir, cette eau de la parole, l'eau. Quand on parle de ça dans la parole de Dieu, c'est qu'est-ce qui nous nourrit. Et la parole de Dieu, c'est justement, c'est de l'eau. Et j'aime la promesse. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Et l'autre chose que je trouve intéressante, ça dit, son feuillage est toujours vert. Savez-vous ça, le feuillage? Quand on voit un arbre, là, un bel arbre, on voit les feuilles, puis c'est normal l'été. Puis là, à l'automne, on commence à voir les feuilles tomber à terre parce que c'est le cycle de la mort. Vous savez, il y a le cycle de la vie et de la mort. Et puis, on voit les feuilles qui apparaissent au printemps et vers la fin, bon, rendu à l'automne, avant l'hiver, là, on voit les feuilles qui tombent. Mais ceux qui sont bénis de l'Éternel ne vivent pas dans le cycle de la mort. Voyez-vous, ça dit, son feuillage est toujours vert. Toujours vert. Il n'y a pas de cycle de la mort pour nous. On va toujours être bénis, on va toujours prospérer, on va toujours réussir. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce qu'on le lit? Moi, je le lis. C'est écrit noir sur blanc. Tel n'est pas le cas des méchants, au verset 4. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Connaissez-vous des méchants ou des chrétiens qui ne sont pas enracinés? Ça dit, tel n'est pas le cas des méchants. Ce n'est pas tout le monde qui va être béni comme ça. Ce n'est pas tout le monde. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Si vous êtes un chrétien, vous vous promenez toujours à droite, à gauche, vous refusez de vous installer une place et de vous laisser enraciner, bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être éparpillé par le vent et puis justement, il n'y aura pas de croissance. Vous ne serez pas comme cet arbre planté près de l'eau. Et c'est le désir de Dieu, comme on voit au verset 3, c'est dit « il prospère ». C'est le désir de Dieu qu'on soit prospère dans notre esprit. Moi, je crois à la prospérité de tout l'homme, mais aujourd'hui, je parle spécifiquement côté de l'âme, nos pensées, notre volonté, notre émotion, nos émotions, tout ça. Dans 3 Jean 1, 2, ça dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si votre âme n'est pas prospère, le restant ne suivra pas. Votre âme, premièrement, doit prospérer. » Et quand on parle de prospérité, on parle de bien-être. Votre âme, vos pensées, votre volonté, vos émotions, tout ça, ça doit prospérer. Et quand ça prospère, vous allez voir vraiment que tout le restant de votre vie va suivre. Et là, il va y avoir la verdure constante dans votre vie. Donc, on est là aujourd'hui. On est là pour parler justement de ses promesses, ses racines, OK? Et comment Dieu veut prospérer notre âme. Et je crois que dans l'Église de Jésus-Christ, il y a beaucoup de croyants qui ne mettent pas en pratique ce que je viens de vous prêcher à présent. Et peut-être, si ça l'a été vous, vous pouvez quitter cette place aujourd'hui, soit offensé, insulté, frustré. Ça, c'est le menu du diable, OK? C'est tout le même prix, ça amène tout à la mort, OK? Ça amène tout à la mort. Mais vous pouvez choisir de dire, savez-vous, moi, j'ai entendu cette parole, ça a été mon cas, maintenant, je change le cours de ma vie. Je change la façon que j'ai agi. Aujourd'hui, je vais établir des principes dans ma vie. Puis savez-vous, si vous êtes frustré avec moi, vous êtes juste frustré avec le porte-parole de Dieu, parce que c'est la parole que je vous ai donnée. Vous pouvez dire, je vais changer aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je prends la décision, je ne serai pas un chrétien chambranlant, un chrétien qui se fait pousser par les vents de doctrine, un chrétien qui se fait éparpiller par le vent. Je vais être un chrétien solidement établi, enraciné. Et quand on fait ça, notre âme prospère, et voici maintenant où on est prêt à aller. On est prêt à aller plus loin, là. Je vous ai lu ces versets-là. On va parler aujourd'hui, la première racine qui est venue sur mon cœur dans cette série sur les racines, c'est la racine du rejet. Et vous savez, je crois, la raison pourquoi souvent des gens ne s'établissent pas dans une église locale, c'est parce qu'il y a eu du rejet dans le passé. Moi, je crois qu'il y a eu des blessures, des choses qui se sont passées dans le passé. Et finalement, on refuse de se soumettre à un leadership parce qu'on a déjà été déçu dans le passé. Où il y a toutes sortes de raisons, il y a eu des blessures qui ont été là. Et là, ça a formé des racines profondes dans nos cœurs, des racines de rejet. Et si on marche toute notre vie chrétienne avec ces racines-là, notre vie chrétienne va toujours aller super mal. Grande révélation, on va n'arracher toute notre vie chrétienne. Et les promesses de Dieu que je viens de lire, vous ne pourrez jamais y goûter. Votre verdure ne sera pas toujours verte. Vous n'allez pas marcher dans la gloire et toutes les choses merveilleuses que Dieu en réserve pour vous si vous marchez constamment avec cette racine dans votre cœur, cette racine de rejet. Moi, je crois que le Seigneur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est déraciner ça de vos cœurs. Il veut enlever ces vieilles racines-là pour les remplacer avec les racines de Dieu, les racines de son esprit qui viennent toutes changer. Mais c'est toujours nous, vous savez, qui décidons. On décide, Seigneur, je te laisse-tu dans mon jardin, je te laisse-tu rentrer dans ce jardin pour enlever les vieilles racines ou je veux être rebelle puis dire non, Seigneur, je suis content. Viens pas jouer dans mes émotions, viens pas toucher ça parce que ça va me faire trop mal. Mais peut-être Dieu, aujourd'hui, a un rendez-vous avec Dieu, avec vous plutôt, pour vous dire, je veux aller dans votre jardin, je veux enlever ces vieilles choses-là, laissez-moi enlever les vieilles racines. Et là, vous allez voir, quand le Seigneur fait un travail, il ne vient pas vous arracher ça de même, il va en douceur, puis il le fait avec amour. Parce que le Dieu qu'on sert, il veut seulement votre bien. C'est juste ça. L'agenda de Dieu pour votre vie, ce n'est pas de venir vous voler, vous égorger, vous détruire, comme on prêche souvent. Non, la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu nous donner la vie, et la vie en abondance. Ce que Dieu veut pour vous, c'est de vous bénir, vous bâtir. Mais si Satan a des choses établies dans vos cœurs, le Seigneur veut vous libérer de tout ça. Il veut vous délivrer. Est-ce que vous laissez le Seigneur aujourd'hui venir faire du ménage dans votre jardin? Une personne? Ma prière aujourd'hui, c'est qu'on va vraiment laisser le Seigneur faire le jardinage. Je vais vous inviter à tourner dans Ésaïe 49. Je réalise c'est de quoi assez... touché, je pense que c'est peut-être une des prédications les plus difficiles que je prêche parce qu'on va vraiment jouer dans les émotions, on va jouer un petit peu dans des manquements qu'on a vécu dans le passé. C'est une parole plus difficile, mais moi je crois que vous êtes assez mature pour le recevoir. Ésaïe 49, verset 14. Ici, on va voir d'où vient la racine du rejet dans nos vies. Ésaïe 49, verset 14, il est écrit. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. » Mais le Seigneur répond, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. Et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. » Ici, on retrouve Israël qui pensait que le Seigneur les avait délaissés. Il dit, Seigneur, tu nous as laissés, tu nous as abandonnés. Mais Dieu, il dit, hey, est-ce qu'une mère va oublier son enfant qu'elle a porté? Est-ce qu'une mère va oublier l'enfant qu'elle est en train d'allaiter? Certainement pas. Mais même si une mère oubliait son enfant, Dieu nous dit, moi, je ne vous abandonnerai jamais. Le Dieu qu'on sert, ce n'est pas un Dieu qui vient nous abandonner. Le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu qui nous aime, qui veut notre bien. Mais pourtant, le peuple d'Israël qui avait vu des grandes choses de la part de Dieu croyait que Dieu les avait abandonnés. Et moi, je crois qu'une des racines, ou la source de la racine là, de cet esprit de rejet, c'est la pensée que Dieu nous abandonne, c'est la pensée aussi que les gens nous abandonnent, parce qu'on est moins que qu'est-ce qu'on pense que les gens s'attendent de nous. Et on va voir ensemble des caractéristiques ce matin de cette racine-là, de rejet. Peut-être que vous allez vous reconnaître ce matin. Une des choses, la timidité. Si vous êtes timide ce matin, ça fait partie de cette racine de rejet. Quand on est timide, d'une certaine façon, il y a toutes sortes de niveaux. Si on peut dire qu'il y a toutes sortes de façons qu'on peut expérimenter la timidité. OK, il y en a qui ne veulent pas venir parler devant les gens, c'est de la timidité. Mais il y en a d'autres sortes aussi où les gens vont s'empêcher de sortir de leur maison parce qu'ils ont peur de parler avec les gens. J'ai connu une femme comme ça. Elle a vécu des années de temps dans sa maison sans sortir de sa maison et les gens allaient livrer l'épicerie chez elle parce qu'elle avait peur de rencontrer des gens. Ça, c'est d'être lié par la timidité. Et je crois aussi qu'il y a la timidité qui est un petit peu plus normale ou dans le sens, peut-être vous êtes gêné de venir parler devant les gens. Ça se peut, on n'a pas tous le même don dans la vie. Mais c'est une chose que ça peut prendre de l'ampleur dans nos vies. Et heureusement, Dieu nous donne la solution à tout ça. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est écrit, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc, au lieu de dire, « Moi, je ne peux pas faire une telle chose parce que je suis timide », arrêtez de parler de la vérité, ou de votre réalité plutôt. Arrêtez de parler de votre réalité. Commencez plutôt à parler de la vérité de la parole de Dieu. « Ouais, mais Joël, moi je me sens timide. » Tu peux te sentir timide sans vivre la timidité, savez-vous ça? Moi, je peux vous dire, avant de prêcher, moi je chantais. De l'âge de 12 ans à 18 ans, je faisais que ça, chanter. J'étais tellement terrifié de parler devant les gens que je me souviens, j'étais devant 2000 personnes en train de chanter un chant. Quand je devais présenter le deuxième chant, je ne pouvais même pas m'en rappeler. Pendant 2 minutes, j'étais là, je ne pouvais pas rien dire pour présenter mon prochain chant. J'avais 12 ans à l'époque. Puis les gens, c'était à New York City, les gens applaudissaient, ils attendaient que je présente le prochain chant. Puis dans ma mémoire, on dirait que c'était comme 2 heures que le monde a applaudi. Parce que pour moi, c'était long. Je voulais juste partir la cassette, partez-la, je veux juste chanter. J'avais peur de parler devant des foules. Et quand j'ai commencé le ministère, quand j'ai commencé à voyager, même avant, je disais à Mathilde, je ne sais pas comment je vais faire parce que j'aime pas ça parler devant le monde. Je suis trop gêné, je ne veux pas parler devant le monde. Mais le Seigneur m'a dit, bon, Dieu a ouvert une porte où on est allé entendre Joyce Meyer. On est allé en Floride l'entendre prêcher. Et ça s'adonnait qu'elle prêchait sur la peur et la timidité. Et puis, elle disait, vous savez, vous pouvez avoir l'émotion de la peur ou la crainte, la timidité. Vous pouvez avoir l'émotion, mais n'empêchez-vous pas de faire des choses pour Dieu à cause que vous avez le sentiment. Allez-y avec votre sentiment de crainte, mais quand vous allez prendre le pas par la foi, l'onction de Dieu va venir sur vous pour vous qualifier pour faire cette chose-là. Alors moi, j'ai entendu ce message-là, j'ai accepté le message, et là, j'avais une invitation pour aller au Nouveau-Brunswick et donner mon témoignage personnel. C'était une des premières fois, il y avait 300 personnes. Je peux vous dire, avant d'embarquer sur la scène, j'étais un petit peu nerveux, mais quand j'ai embarqué et j'ai commencé à parler, j'ai parlé pendant 1 heure, l'onction de Dieu est venue, puis j'avais plus de timidité. Mais j'aurais pu dire, « Hey, je vais juste chanter le restant de mes jours parce que je suis trop gêné pour parler devant le monde. » J'aurais pu commencer à être conditionné dans ma tête pour dire, « Je peux pas le faire. » Mais j'ai choisi de croire le rapport de Dieu à mon sujet. J'ai un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse en opération dans ma vie. Je suis plus timide au nom de Jésus. Parce que si je suis timide, savez-vous pourquoi je suis timide? Parce que j'ai peur que vous allez me rejeter. J'ai peur qu'ils vont dire, de quoi qu'ils vont dire de Joël? C'est quoi qu'ils vont dire à mon sujet? Ah, il était mal habillé aujourd'hui. Hein, je pourrais être ici et penser tout le long, « Ouais, trouves-tu que je suis mal habillé un matin? Hey, je ne porte même pas de veston. Hey, je ne porte pas de cravate. Je pourrais penser à ça. Ma voix peut-être n'est pas assez belle. Elle est peut-être trop haute, peut-être trop basse. Je peux commencer à tout m'examiner. » Puis là, en réalité, je suis ici, là, je suis en train de penser à vous autres, qu'est-ce que vous êtes en train de penser de moi. Je suis en train de vivre cette chose. C'est de la torture, finalement. Hein, c'est de la torture. Je suis en train de me torturer. Mais Dieu, il dit, « Hey, Joël, vas-y comme que t'es. Il y en a juste un Joël Smith sur toute la planète Terre. Je suis le seul. Vous êtes la seule personne comme vous. Pourquoi essayer d'imiter quelqu'un d'autre? Il n'y a personne qui peut être Joël Smith aussi bien que moi. Hein? Il n'y a personne qui peut être vous aussi bien que vous. C'est vrai, il faut s'accepter comme on est. Dieu, il nous a créés comme ça. Moi, je suis qui je suis. Et Dieu nous donne un public pour notre appel. Hein? Ceux qui sont ici, vous êtes ici, mais moi, je crois que c'est parce que Dieu vous appelle à recevoir la parole ici. C'est tout. Mais je pourrais vivre constamment dans cette crainte-là. Dieu veut vous libérer de la timidité si c'est votre cas. D'autres caractéristiques. Vous pouvez être lié ou avoir des pensées mensongères constantes dans votre tête. Okay? Vous arrivez dans une pièce, par exemple, vous êtes la seule nouvelle personne et puis c'est un party, il y a plein de gens. Et là, vous pensez, « Ah, je suis un loser. Tout le monde pense que je suis un loser. J'ai un gros L sur le front. Le monde, il pense toutes sortes de choses à mon sujet. » Et là, vu qu'on pense ça, comme la parole de Dieu dit, « L'homme est comme les pensées de son cœur. » Si vous pensez que vous êtes un loser, OK? Vous arrivez à une place et finalement, vous prophétisez votre vie et vous le devenez, ce loser-là. Parce que là, les gens viennent vous parler, puis là, vous avez peur du monde. Ça se peut-tu, ça? Vous allez avoir peur, vous allez vivre toutes sortes de choses parce que vous pensez à quelque part des mensonges de l'ennemi. L'ennemi a semé des mensonges et vous y croyez. Et là, peut-être, vous allez embarquer dans des comparaisons. Ouais, mais t'as-tu vu, tout le monde sont arrivés en BMW ici, là? Puis moi, j'arrivais avec ma Toyota. Là, on se compare. Moi, je peux vous dire, quand on est déménagé ici, j'étais en Toyota à Bromont. C'était toutes des Mercedes, des BMW. Je dis, oh mon Dieu. Mais je l'ai vécu. Mais ma femme m'a dit non. Là, on a changé de modèle. Là, c'est Volkswagen. C'est pas plus huppé, mais on est content. Mais on peut se comparer dans 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 12. Écoutez bien, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12, ça dit, « Certes, nous n'oserions pas nous égaler ou nous comparer à certains de ceux qui ont une si haute opinion d'eux-mêmes. Ils sont stupides. Ils établissent leurs propres mesures pour s'évaluer. Ils se comparent à eux-mêmes. » Alors, si vous vous comparez à quelqu'un d'autre, la parole de Dieu dit de vous que vous êtes stupide. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si vous vous comparez à d'autres personnes, vous êtes stupide. Parce que Dieu ne vous appelle pas à vous comparer à quelqu'un d'autre, Dieu vous appelle à vous comparer à Jésus-Christ. Si vous vous comparez à Jésus, vous allez voir, vous avez toujours bien du chemin à faire. Mais heureusement, nous sommes en Christ, et comme nous sommes en Christ, nous sommes déclarés justes et nous sommes déclarés parfaits. Je suis saint. Au nom de Jésus-Christ, je suis saint Joël, comme vous savez, je l'ai déjà dit ici. Je suis saint, je suis sans défaut, j'ai été complètement purifié dans le sang de l'agneau. Et vu que je suis en Christ, je suis dans la paix, puis j'ai une estime de moi-même qui est quand même correcte, parce que mon estime n'est pas fondée en moi-même, mon estime est fondée en Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est tellement merveilleux, on peut marcher d'une façon libre comme ça. Mais si on se compare les uns avec les autres, je peux vous dire, vous allez toujours voir quelqu'un qui chante mieux que vous, qui paraît mieux que vous, qui parle mieux que vous. Il y a tout le temps quelqu'un pour vous dépasser sur la planète. Alors, vous pouvez avoir toujours cette possibilité d'être toujours découragé et toujours triste et toujours frustré. Et je pense que le modèle parfait, comme vous savez, on vient de voir cette semaine que Michael Jackson est décédé. Et une des choses que j'ai trouvées remarquables, quand on voit son visage à travers les années, on connaît qu'il a été beaucoup rejeté par son père, où son père riait de lui et il disait... Big nose, il se faisait dire, t'as un gros nez. Son père disait ça à son sujet. Et lui, comme un petit enfant qui a grandi en se faisant moquer par son père, en se faisant dire comment qu'il était pas beau, il a cru ça. C'est une semence dans son cœur. Et finalement, il a toujours recherché d'être approuvé de son père. Il a toujours recherché d'être acceptable. Et même s'il paraissait super bien, il se trouvait jamais assez beau. Alors, il a fait, je sais pas combien d'opérations pour changer son image. Mais comme vous voyez, à la fin de sa vie, il était pas beau, là. Il s'est détruit son visage. C'est horrifique qu'est-ce qui s'est passé à cet homme-là. Je trouve ça triste, mais c'était une racine de rejet où il ne pouvait jamais arriver à s'accepter lui-même. Il pouvait se comparer à toujours des personnes plus belles, mais finalement, on n'est pas heureux comme ça. Donc, on se compare, on est jaloux. La jalousie, ça fait toute partie de cet esprit ou de cette racine de rejet. La vision teintée, c'est une autre chose, la racine du rejet. Quand on se voit dans le miroir, comme Michael Jackson, on ne voit pas la vraie personne. On se voit comme étant une personne laide. On est découragé, peu importe. Hein, on peut vivre toutes sortes d'affaires. Comme je vous dis, vous arrivez dans une salle où Vous avez une vision que les gens vous perçoivent d'une certaine façon, puis c'est pas vrai du tout. Ça, c'est une racine. Et je peux vous dire, qu'est-ce qui suit par la suite? Votre écoute va être distorsionnée. Quand les gens vont vous parler, vous arrivez dans une salle, quelqu'un vous dit, « Hey, j'aime ta coupe de cheveux, c'est super beau. » « Ah ouais, elle aime ma coupe de cheveux. » Ça veut dire qu'avant, elle n'aimait pas ça. Elle a dû me trouver super laid avant. Puis tout ce temps-là, me trouvait laid. Colin, oh, tout le monde a dû me trouver laid finalement. Et là, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on entend un compliment, mais au lieu d'entendre le compliment, on entend l'insulte. Ça, c'est de vivre avec l'esprit de rejet en dedans de nous. On devient susceptible. Quelqu'un vous fait un compliment, quelqu'un veut vous bénir, mais vous le prenez toujours l'opposé. Ça, là, c'est triste. Quand on vit comme ça, on vit lié par un esprit de rejet dans notre vie. Puis ça, c'est triste parce que moi, je peux vous dire que dans nos églises, j'en ai vu beaucoup des personnes comme ça. Et ils ne peuvent pas arriver. Puis des fois, on se dit, comment ça, ils ne sont pas rendus plus loin dans leur vie chrétienne? Comment ça? Mais on les rencontre une couple de fois, puis on réalise que cette personne-là est susceptible, elle prend toujours tout mal, elle interprète à l'envers. C'est se faire torturer, ça. Puis ça torture les frères et les sœurs dans l'église aussi. On devient susceptible, c'est pas bon. C'est pas bon. Même une fois, je me souviens, j'étais avec quelqu'un, il m'a posé une question, j'ai dit oui. Oui, je le veux, j'accepte. Et il était tellement certain que je dirais non. Ah, oh, ben je savais que tu voulais pas, puis blablabla. Comment ça? J'ai dit, quoi? J'ai dit oui. Et là, son épouse était là, elle dit, il vient de dire oui. Tu as dit oui? Mais c'est ça que tu veux dire vraiment? Oui, c'est vraiment ça que je veux dire. Ah, OK. Mais ça a pris toute une histoire, cette affaire-là, parce que la personne ne comprenait pas ce que je disais. Parce qu'elle avait un filtre de « je suis un loser, personne ne veut », toutes ces pensées-là, qui sont en passant toute l'œuvre de l'ennemi, qui persistent dans nos églises. Et vous savez, je pourrais vous prêcher juste comment Dieu veut vous bénir dans votre vie, je pourrais prêcher plein de bonnes choses ce matin, mais si on n'enlève pas ces racines-là, il y a plein de choses que Dieu veut vous donner que vous n'aurez jamais. Parce que vous n'êtes pas capable de les recevoir avec un esprit de rejet dans votre vie. Vous devez être libéré. Amen. Et là, ensuite, la crainte du rapprochement. Les gens veulent être proches de vous. Hey, on peut-tu faire de quoi ensemble? Non. J'ai peur de toi. Hein? J'ai peur parce que dans le passé, je me suis rapproché de certaines personnes. Ils m'ont blessé. Et là, moi, j'ai peur que si je me rapproche de toi, toi aussi, tu vas me blesser. Est-ce que ça se peut que ça existe encore parmi nous, dans nos églises? Moi, je crois que oui. Il y a plein de gens qui se tiennent à distance. Ils viennent à l'église, puis avant que la musique soit finie, ils sortent de l'église, de peur qu'ils rencontrent quelqu'un, de peur que quelqu'un voudrait s'approcher d'eux. On a rencontré un couple, mon épouse et moi, quand on était en Alberta. C'est des gens super gentils. C'est des bons amis à nous. Sauf on n'a jamais été capable de devenir vraiment proche d'eux autres, même s'ils étaient proches de nous. On n'a jamais appris à les connaître parce que c'était des gens superficiels. Ça se dit ça en français? Toujours là. « Ah, oh, le soleil est beau aujourd'hui, hein? Ah, oh, wow, regarde les montagnes, wow. » C'est toujours dans le superficiel. « Hey, Walmart, ils ont grandi. Hey, c'est merveilleux, hein? Gloire à Dieu, alléluia. » C'était toutes des affaires de même, mais quand ça arrivait pour parler des choses vraies, là, parler des choses vraies, on ne pouvait pas jamais parler des choses vraies avec ces gens-là. C'est vrai, parce que justement, il y avait peur. Si on s'ouvre à quelqu'un, on risque d'être refusé. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand on vit cette vie-là, on vit une vie artificielle. Parce que là, on vit une vie pour faire plaisir à tout le monde. Alors, on devient un joker, par exemple. On se met toujours à faire des blagues, parce que si les gens apprennent à vraiment me connaître, là, ils vont pas m'aimer. Alors, on vit cette vie artificielle. Puis si les gens rejettent Joel Spinks, l'artificiel, au moins, ils n'ont pas rejeté le vrai Joel Spinks. Alors, il y a plein de chrétiens qui vivent une double vie. Ils vivent une vie artificielle. Ils ne parlent jamais des choses qui sont vraies. Ils vivent une vie super triste. Là, le diable n'est pas content ce matin parce qu'on est en train de défaire ses jeux. Il y a des gens aussi, une vie de course ou nomade. Je vais aller à une église 2 semaines, après je vais dans une autre église. Je ne peux pas m'arrêter nulle part parce que là, les gens vont apprendre à me connaître qui je suis. Et s'ils apprennent qui je suis, ils ne m'aimeront pas et là, je vais être blessé. Donc, je vais me promener. Ou juste avant d'entrer dans ma destinée, je vais m'enfuir parce que j'ai trop peur. D'un coup, là, si ça ne marche pas, il y a toutes sortes de craintes là, qui rentrent. Juste avant de percer, juste avant de vivre une chose glorieuse, qu'est-ce qui se passe? Une vie de course. On se promène et on ne se laisse pas enraciner à une place. Ça, c'est vraiment triste. Qu'est-ce qui se passe? Là, qu'est-ce qui se passe par la suite? Les gens vivent derrière des murs. Et c'est sûr que quand on vit derrière un mur, on est protégé. Mais cette protection empêche également l'amour du corps de Christ entrer. Vous savez, on veut recevoir de l'amour, mais quand il y a un mur comme ça de protection, on est tellement distant, tellement artificiel, tellement... Toutes les choses que j'ai décrites à présent, toutes ces choses-là empêchent... Oui, il y a la protection, mais ça empêche l'amour véritable de pénétrer dans nos vies. Puis là, on passe à côté ce que Dieu veut pour nous. Et quand je priais, puis je cherchais la face de Dieu concernant le message de ce matin et des semaines à venir, j'entendais que le Seigneur me disait, il faut vraiment aller déraciner ces choses-là pour que l'Église, la fondation de cette Église, soit fondée avec des gens qui sont guéris. Savez-vous, je vais vous dire, quand je viens de vous dire là, il y a des leaders spirituels au Canada que je connais personnellement qui ont fait des grandes choses pour Dieu, mais qui marchent toujours avec l'esprit ou la racine de rejet dans leur vie. Déjà, on penserait que ce n'est pas possible. Connaissez-vous Joyce Meyer? Mais Joyce Meyer, elle partage ça elle-même dans un de ses livres. Elle dit qu'avant, là, quand elle prêchait, sa nourriture, là, c'était de se faire donner des compliments après une prédication. Puis c'est sûr, on aime tout ça être apprécié. Hein? C'est normal, dans la vie, on veut tous être appréciés. Mais elle, s'il y avait un dimanche où elle ne recevait pas un compliment, elle retournait chez elle complètement démolie. Puis elle dit, « Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a personne qui a été béni ce matin. » Et puis là, elle était découragée, déprimée. Et là, un jour, Dieu lui a dit, « Tu prêches-tu pour les autres ou tu prêches vraiment pour moi? C'est qui que tu cherches à plaire? C'est-tu moi, Joyce, ou c'est vraiment ces gens-là? » Et elle a compris qu'elle avait une racine de rejet. Et si elle continuait avec cette racine-là dans son cœur, elle vivrait pour les autres. Elle serait dirigée, influencée dans sa vie par cette racine-là, de ce besoin d'aller se combler par cet amour des gens. Mais Dieu, là, veut nous combler, il veut nous délivrer d'une autre façon, puis on va le voir tantôt. On a le choix, par exemple. Tout ça, qu'est-ce que je vous dis, là, on a le choix. Dieu, là, il ne veut pas qu'on vive, qu'est-ce qui suit? La solitude et la dépression. S'il y a des chrétiens qui sont déprimés dans les églises ou qui ne sont plus dans les églises, sont seuls, je peux vous dire qu'il y a souvent des bonnes raisons. Moi, là, je ne suis pas un nouveau chrétien. J'ai été sauvé à l'âge de 4 ans. J'en ai vu des choses. J'en ai vu de toutes les couleurs dans les églises. J'ai vu des belles choses, j'ai vu des mauvaises choses. Puis je pense qu'il n'y a rien que vous pouvez me raconter que je serais surpris. Je pense que j'ai vu le pire dans les églises, à tous les niveaux. Pensez au pire péché, je l'ai vu dans l'église. J'ai eu toutes les opportunités pour être offensé, toutes les opportunités pour être blessé, pour me révolter et dire « je ne veux plus rien savoir de l'Église ». J'ai eu cette chance-là. Le diable m'a donné la chance. Mais je peux vous dire que j'ai choisi de croire que Dieu était plus grand que l'œuvre de l'ennemi. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit concernant son Église, « le séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église ». Toutes les flammes de l'enfer ne détruiront pas l'Église de Jésus-Christ. Puis même si j'ai été blessé, même si j'ai vécu des choses pas correctes, je me relève puis je dis, sais-tu, c'est vrai, c'était pas correct, mais je continue à marcher avec Jésus et je vais continuer à être fidèle à sa parole. Puis s'il me dit de ne pas négliger mon assemblée, je vais continuer à y aller quand même. Amen. Faites dire amen ou ouch. Moi, je ne connais pas vos cœurs, je ne connais pas vos vies. Moi, je prêche juste ce que Dieu m'a donné. Puis c'est peut-être pour des gens aussi sur l'Internet aujourd'hui. Mais moi, je crois aussi, quand vous recevez cette parole-là ce matin, si vous rencontrez des chrétiens qui vont venir à cette église prochainement, puis vivre des choses, vous allez être capable de comprendre pourquoi ils sont la façon qu'ils sont. Puis là, vous pourrez les aimer et les aider à marcher dans un cheminement là, de guérison. Je crois que le Seigneur est en train de vous équiper. Ce n'est pas juste pour vous, ça se peut que c'est pour les autres aussi qui vont suivre. Donc, on voit toutes ces caractéristiques-là de la racine du rejet. Et on peut dire, oui, ces racines sont là, c'est-tu triste, c'est plein de chrétiens, tu croches. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche. On pourrait faire ça, hein? Mais non, il y a ceci. Mais Dieu. Heureusement, on a Dieu. Hein? Même s'il y a le rejet dans le monde, même s'il y a les blessures, même s'il y a toutes ces choses-là, mais Dieu. Romains chapitre 5 et le verset 8. Mais Dieu. Ça, c'est merveilleux de savoir que Dieu a une réponse pour tous les problèmes dans nos vies. Romains chapitre 5 et le verset 8, il est écrit. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, on voit ici que même quand on était pécheurs, Jésus-Christ a été envoyé sur la terre pour mourir pour les pécheurs qui ne méritaient rien. Dieu n'est pas venu sur la terre parce qu'il trouvait « wow, ils valent la peine » ou dans le sens que sont super parfaits. Mais non, il nous voyait malades comme on était, malades spirituellement. Et malgré ça, il a trouvé que ça valait la peine de venir donner sa vie pour nous, venir mourir pour nous. Et quand on a la révélation de l'amour de Dieu, quand vraiment cette révélation-là puisse prendre racine dans nos cœurs, tout le restant de ce que je vous ai raconté ce matin, ça peut tout être balayé en dehors de nos vies. Toute la timidité, tout le rejet, tous les murs qu'on se crée, toutes ces choses-là peuvent disparaître au nom de Jésus quand on laisse l'amour de Dieu nous guérir. Mais faut dire oui à Dieu finalement. Ça prend juste ça. Avec Dieu, c'est très facile. Il faut juste dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai vécu des choses dans le passé, mais je ne veux pas que le passé détermine mon futur. Je veux que mon passé soit balayé, que tu prennes ces vieilles racines-là, que tu déterres, Seigneur. Et maintenant, laisse tes racines d'amour prendre sa place. Amen. Moi, je crois que Dieu veut s'enraciner profondément dans son amour, dans vos cœurs. Mais Dieu, Romains chapitre 5, versets 5 à 6. C'est dit, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. Mais ici, c'est le même texte, mais le même chapitre plutôt. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Est-ce que vous ressentez son amour? Peut-être une portion de son amour que vous avez laissé entrer, mais par crainte ou pour toutes sortes de raisons, vous n'avez pas laissé tout l'amour de Dieu prendre sa place. Et peut-être Dieu aujourd'hui vous dit, donnez-moi plus de place. Je veux vous donner plus de mon amour. Je veux vous remplir davantage. Et quand vous allez être rempli vraiment à déborder de l'amour de Dieu, vous allez être capable d'aimer les gens. Vous allez être capable d'être une source d'amour pour les gens encore plus à cause que vous aurez laissé Dieu vraiment faire le travail dans vos cœurs. Moi, qu'est-ce que je trouverais super triste, c'est si vous avez entendu ce message et vous quittez et vous dites, non, moi là, je ne suis pas capable de m'ouvrir, je ne suis pas capable de faire ça, c'est trop difficile. Écoutez, ce n'est pas difficile parce que le travail ne vous appartient pas. Ce n'est pas à vous le travail, c'est le travail est à Dieu. Vous avez simplement à dire, Seigneur, je réalise que je suis malade, je réalise que j'ai des bobos, mais Seigneur, veux-tu venir me guérir, s'il te plaît? Peux-tu laisser ton amour me transformer? Puis quand vous dites juste, oui, Dieu le fait. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire en ce moment même, pendant que vous m'écoutez? L'ennemi veut venir vous dire dans votre oreille, écoute pas ça, fuis, la porte est là, cours, va-t'en au plus sacrant. C'est ça que l'ennemi veut faire. Fuis, cours, reviens plus jamais ici. Parce que ça vient trop jouer dans tes émotions. Mais si vous ne laissez pas Dieu travailler dans vos émotions, vous allez avoir ces émotions-là toute votre vie et vous allez vivre dans l'esclavage. C'est vrai ça. Et là, vous allez devenir des chrétiens. Après 25 ans de service dans l'armée de Dieu, quelqu'un va vous dire, « Hey, j'aime ta guitare. » Quoi, t'aimais pas ma guitare avant? Elle était pas correcte. C'est vrai, on en rencontre des chrétiens, des hommes de Dieu dans le ministère à temps plein dans l'œuvre qui sont susceptibles. On leur dit, « J'aime tes cheveux, j'aime tes souliers. » Puis c'est, « Je viens de Satan. » Tu sais, c'est vrai. Il y a des gens susceptibles. Dieu veut guérir ça. Dieu veut établir cette église-là avec des gens, non seulement juste guéris physiquement, mais guéris dans l'âme aussi. Puis les gens sont sécures en Christ. Ils connaissent l'amour de Dieu. Ils savent que Dieu les aime. Ils savent aussi que les frères et les sœurs dans l'église les aiment. Puis s'il y a quelqu'un, c'est un frère ou une sœur, papier sablé, comme on dirait, bien, on sait que cette personne-là s'est engagée à prier pour moi. Hein? Ça se peut, on n'est pas rendu au ciel encore. Ça se peut qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir vous... Aïe, aïe, ça me dérange, hein? C'est du papier sablé. Ça se peut, mais si on s'aime et on laisse l'amour de Dieu travailler dans nos cœurs, il n'y a rien qui peut nous empêcher. Réalisez-vous ça, il n'y a absolument rien qui va nous empêcher d'accomplir tout ce que Dieu en réserve pour nous. Et cette église, il n'y a rien, sauf des mauvaises racines. Ça, c'est une chose, des racines là qui sont là de Satan là, dans l'église. Ça va nuire à l'Église. Et peut-être vous dire, ah, oh, ben, bon, je vais m'en aller, Joël. Non, restez là. Laissez Dieu vous travailler. Laissez Dieu vous changer. On vous aime comme vous êtes. Vous savez, Dieu vous aime avec plein de mauvaises racines. Dieu a envoyé son Fils pour vous comme ça, comme vous étiez. Il n'y a pas besoin de vous changer pour vous aimer, mais son amour en vous va vous changer. Savez-vous, c'est ça une chose. Vous n'avez pas besoin de changer pour qu'il vous aime. Vous pouvez mourir avec plein de blessures. Vous pouvez mourir malade, vous pouvez mourir cassé comme un clou, vous pourrez mourir sans avoir vécu votre héritage en Christ. Dieu vous aime quand même. Mais si vous laissez l'amour de Christ vous transformer, waouh, ça va être merveilleux. Romains chapitre 8, 38 à 39, il est écrit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Dieu. Vous avez dit, oui, Joël, mais tu ne sais pas le péché que j'ai fait. Tu ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait contre un frère ou une sœur. Ou, tu ne sais pas la profondeur du péché que j'ai commis. Ici, ça dit ni la hauteur, ni la profondeur. Il n'y a rien que vous avez pu faire pour passer à côté de l'amour de Dieu ou que l'amour de Dieu soit rayé de votre vie. Il n'y a absolument rien au monde que vous avez pu commettre qui vous rend inaccessible dans cet amour divin. Je vais vous rappeler cette parole. Ni la hauteur, ni la profondeur ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Et dans Éphésiens, chapitre 3, ici c'est la prière de l'apôtre Paul. Il dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse ou toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est la prière de l'apôtre Paul pour vous, que vous puissiez vraiment comprendre, même s'il dit lui-même, on ne peut même pas tout saisir intellectuellement cet amour. Avoir la révélation dans nos cœurs de cet amour de Dieu. Hey, Dieu m'aime. Aujourd'hui, Dieu vous aime. Réalisez-vous ça. Dieu vous aime. Il serait parti du ciel juste pour vous. Juste pour vous. Et quand on a cette révélation, waouh, Dieu m'aime. Ça veut dire, là, je peux rentrer dans un restaurant, je peux rencontrer des nouvelles personnes que je n'ai jamais rencontrées de ma vie. Puis là, je sais, moi, là, je suis aimé de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Wow! J'arrive à une place, là. Moi, je sais que tout le monde va triper sur moi parce que je suis un enfant de Dieu. C'est vrai. Hey, là, on n'est pas arrogant, mais on a une confiance. Hey, je suis un fils de Dieu. Mais là, mes pensées, là, c'est merveilleux. J'ai toutes les pensées, les versets de la parole de Dieu à mon sujet. Qui je suis en Christ? Satan me disait, hey, t'es un loser. Ah non, je viens d'enlever ça, cette racine-là. Je ne suis pas un loser, je suis un gagnant. Je suis plus que vainqueur en Jésus. À cette heure, hey, j'ai une nouvelle façon de me voir. Quand je me regarde dans le miroir, je ne dis pas, hey, j'étais donc bien laid. Non, je suis une créature si merveilleuse. Hein? C'est toute une autre façon de penser. Il faut déraciner les choses que Satan a plantées, a implantées dans vos cœurs pour laisser faire grandir cette racine qui vient du Seigneur. Mais la décision repose toujours à nous. Tout ce que Dieu veut faire dans nos vies, c'est toujours une question. Est-ce que je vais me laisser modeler par Dieu? Est-ce que je vais me positionner dans cette place où je peux grandir spirituellement? Ou est-ce que je vais venir à l'église une fois par 6 mois? De temps en temps, je vais me promener à droite, à gauche. Je m'enracinerai jamais. Je ne pourrai jamais développer les choses que je connais. Je ne laisserai pas cette parole de foi développer dans mon cœur par mes décisions. C'est toujours, toujours ça. Et l'ennemi, il veut des chrétiens à la course. L'ennemi veut des chrétiens blessés qui courent partout. Mais aujourd'hui, je crois, c'est le jour du salut. Et le salut, là, dans la parole de Dieu, ça nous parle de délivrance. Dieu veut vous délivrer de vous-même aujourd'hui. Dieu veut vous délivrer de votre passé aujourd'hui. Est-ce que vous allez dire oui à Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Dieu, on croit cette parole. On croit, Seigneur, tous les versets qu'on a lus ensemble concernant ton amour pour nous. Et Seigneur, ce matin, je veux prier pour ceux qui sont liés dans leur cœur, dans leurs pensées, qui ont ce sentiment de rejet. Ces racines-là, Seigneur, on les maudit ce matin au nom de Jésus. On maudit ces vieilles racines de l'ennemi. Et aujourd'hui, Seigneur, on prie que tes racines de l'amour soient enracinées profondément dans les cœurs, Seigneur Jésus, par la présence de ton Saint-Esprit qui fait le travail. Seigneur, je prie que chaque personne qui le veut ce matin, chaque personne qui veut être délivrée, que je puisse entendre maintenant un oui. Je vais le dire, je vais compter 1, 2, 3. Tous ceux qui veulent vraiment être enracinés dans l'amour de Christ, vous allez le dire à Dieu et le diable va vous entendre qu'à partir d'aujourd'hui, vous dites oui à ces racines de Dieu. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Oui. Dieu, t'as entendu, Seigneur, ces décrets. C'est simple, c'est un simple oui. Mais aujourd'hui, Seigneur, on dit oui à tes racines, Seigneur Dieu. Viens prendre la place. Seigneur, on prie que chaque racine d'amertume, les vieilles blessures, Seigneur Dieu, on prie que ton baume de guérison vienne maintenant dans les cœurs. Que chaque personne soit guérie, Seigneur Dieu. Aujourd'hui même, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur, que les vieilles pensées disparaissent au nom de Jésus maintenant et que tu remplaces ces pensées avec des versets de guérison, des versets de vérité, Seigneur, pour aller à l'encontre des mensonges de l'ennemi. Seigneur, je te prie que chaque personne puisse quitter cette place libre, marchant, Seigneur, avec la joie dans leur cœur. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es venu nous donner la vie et la vie en abondance. Merci, Seigneur, pour la liberté. Merci, Seigneur, que tu nous affranchis, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, parce que Satan est sous nos pieds aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que cette Église grandit avec des gens guéris dans leur âme, dans leur pensée, leur volonté, leurs émotions, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, qu'on ne sera pas des chrétiens qui traînent la patte pendant 25 ans. Mais aujourd'hui, on reçoit la victoire dans nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, on reçoit la victoire dans nos cœurs. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, de le faire. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ceux qui croient, vous pouvez dire amen.
Amen.
Amen. Amen. On est libre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire « Je suis libre ». Je suis libre. Dites-le comme si vous croyez. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Amen. On est libre aujourd'hui. On est libre de l'œuvre de l'ennemi. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je prie vraiment que vous partiez avec cette parole dans vos cœurs et que vous puissiez méditer sur ces versets-là. Parce que vous savez, si ça fait 25 ans que vous pensez d'une certaine façon, ça prend le temps aussi de changer votre façon de penser. Commencez à méditer sur la parole de Dieu constamment. Laissez Dieu changer ces vieilles pensées-là vous concernant. Et laissez l'amour de Dieu vous envahir de jour en jour. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.